بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ف aujourd'hui le 24 du mois de Safar de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons notre troisième assise, notre série d'assises concernant le commentaire du livre L'épreuve de l'évangile que Isa alayhi salam est un serviteur du Seigneur tabarak wa ta'ala et n'a pas de part dans l'adoration. Écrit par le savantissime Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala. L'assise d'aujourd'hui, je terminerai l'assise de la semaine passée qui concernait la biographie de Sheikh. Je la terminerai en citant quelques éloges des gens de science à l'égard de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah. Puis nous commencerons aujourd'hui à entamer l'introduction de l'épître pour nous faire une idée générale de ce livre que nous allons étudier ensemble. J'ai réuni ici quelques éloges des gens de science contemporains à l'égard de l'auteur. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Parmi ces éloges, nous trouvons l'éloge de Al-Allama, le savantissime Abdelhamid Ibn Badis Al-Jazairi Rahimahullah Ta'ala, qui disait à son égard: l'homme honorable reste honorable où qu'il soit, tout comme le soleil reste le soleil, qu'il se lève ou qu'il se couche. Le professeur, le savantissime Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, l'auteur des chapitres plaisants et des éminentes recherches scientifiques du journal Al-Fath, compte parmi les plus honorables d'entre nous, ceux dont l'honorabilité est reconnue unanimement en Orient et en Occident, par les Arabes et les non-Arabes, les musulmans et les non-musulmans. Dans le Hijaz, sa réputation et son mérite le précèdent. En Inde, il a occupé le poste d'enseignant dans les plus hautes universités. En Irak, il est bien connu pour être continuellement au service de cette communauté et pour être avide de veiller à son bien. Il est maintenant en Allemagne, tenu en respect par les doyens de l'université de Bonn, où il enseigne. Le professeur Al-Hilali est un homme international, au regard large. Il connaît les situations de l'Orient et de l'Occident. C'est la raison pour laquelle ce qu'il soutient comme vérité dans ses recherches se révèle mûr, profitable et agréable. Il est rapporté de Al-Allamatu Ibn Badis dans son livre Athar Ibn Badis, le volume 4, la page 150 et 151. Nous trouvons aussi l'éloge de Al-Allama, le savantissime Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui disait, dans le sens de ses paroles: et notre frère, le docteur Taqiyuddin Al-Hilali du Maroc, appartient à cette catégorie, c'est-à-dire les revivificateurs de la religion, Al-Mujaddidoun. Ils appellent à l'unicité, prêtent attention à la croyance salafi et mettent en garde contre les superstitions et les croyances fausses. Il a dit également: il était un noble savant qui dépensait ses efforts dans l'appel à Allah, où qu'il soit. Il s'est rendu dans beaucoup de pays et s'est livré à l'appel à Allah en Europe, pendant une période, en Inde et dans la péninsule arabique. Nous avons aussi ici l'éloge de Al-Allama, le savantissime Muhammad Al-Ansari, rahimahullah, muhaddith al-Medina, rahmatullahi alayh, qui disait, dans le sens de ses paroles: en vérité, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait réuni autant de sciences dans autant de disciplines différentes que le docteur Al-Hilali. J'ai certes dépassé les 45 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un de pareil à lui. Nous retrouvons cette parole dans Al-Majmou', le volume 2, page 604, Al-Majmou', qui a été réuni par son fils Abdul Awwal, le fils de Cheikh Hamad Al-Ansari, Abdul Awwal, qui est mort il y a quelques jours, rahimahullahu wa rahmatullahi ala abi. Voici quelques éloges des gens de science contemporains à Al-Allama Al-Hilali. Et comme vous le savez, comme je l'ai évoqué précédemment, sa réputation n'est plus à faire. Et lorsque nos savants évoquent Al-Allama Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali, il l'évoque en bien, avec beaucoup de respect, et en faisant les éloges de sa science, comme son comportement, comme son effort et son combat dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala toutes ces années. Ici se termine la partie qui est l'introduction à l'épître que nous allons étudier, l'introduction générale qui se constitue d'un avant-propos ainsi qu'une introduction, puis d'une biographie de l'auteur, suivie, comme nous venons de le voir, d'éloges de savants contemporains à Cheikh. Nous allons entamer ici la lecture de cet épître, l'épreuve de l'évangile, Al-Barahin Al-Injiliya, l'épreuve de l'évangile que Isa alayhi salam est un serviteur du Seigneur et n'a pas de part dans l'adoration. Il dit, Rahmahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, toutes les louanges reviennent à Allah qui détient la gloire et la majestuosité, qui est le seul à posséder les attributs de perfection. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Il n'a aucun égal ni équivalent. Il est le grand, le très haut. Il a envoyé ses messagers pour guider les gens vers son adoration à lui seul et les mettre en garde contre l'association qui les conduit à l'anéantissement. Et que sa prière et son salut soient sur tous les prophètes et envoyés, particulièrement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, et sur tous ceux qui les ont suivis avec perfection jusqu'au jour de la rétribution. Amma ba'du, ceci dit, mon élève Mundhir Ismail Ad-Durubi Al-Baghdadi, lequel étudie l'ingénierie dans une université des États-Unis depuis environ 4 ans, m'a écrit et informé que les chrétiens s'étaient rassemblés autour de lui. Ils se sont mis à le quereller au sujet de la religion et ont fait preuve d'arrogance à son égard. Il ne savait quoi leur répondre, alors j'ai rédigé cet écrit que j'ai appelé Al-Barahin Al-Injiliya, l'épreuve évangélique, que Jésus, alayhi salam, est un serviteur de Dieu et qu'il n'a aucune part dans l'adoration. Et je lui ai donné les numéros des versets et des chapitres issus des quatre évangiles, afin qu'il puisse les extraire en anglais et ainsi les repousser, après avoir compris ce que je lui ai expliqué en arabe. Il s'est longuement penché sur l'épître jusqu'à l'avoir parfaitement comprise. Il les a appelés à débattre, et quand il débattit avec eux, il les réduisit au silence. Ils furent battus de la pire des manières, comme il m'en informa par la suite. Je ferai suivre cette épître par une autre histoire similaire à celle-ci qui s'est déroulée à Bagdad, en Irak donc. La conséquence fut la même que celle de l'histoire précédente. Le musulman ne sera jamais en manque de preuves de l'authenticité de sa religion et de la fausseté de la religion de ses ennemis. Mais il manque des frères sincères qui secourent Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. A dit vrai celui qui a dit, l'islam à cette époque est une religion sans hommes et le christianisme a des hommes sans religion de vérité. En effet, par leur effort, leur bien, leur courage et leur endurance, ils font passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Et la majorité des gens à cette époque sont les esclaves du dinar et du dirham. Ici, Al-Shir fait allusion à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Il est triste, et ceci est un dua et aussi une information, c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait contre celui qui a adoré le dinar et le dirham, c'est-à-dire l'argent. Ici, l'argent et l'or, donc l'argent, la monnaie, celui qui aura adoré la monnaie. Et c'est une information, de même qu'un dua, de même qu'une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cette personne. Donc ici, Cheikh Mohamed Taqiyuddin fait allusion à ce hadith lorsqu'il dit « Et la majorité des gens à cette époque sont les esclaves du dinar et du dirham, des habits luxueux et des palais élevés. » Est venu le moment d'entamer le but de cette épître avec l'aide du souverain adoré, Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. C'est en lui que je place ma confiance et c'est à lui que je reviens repentant. Nous voyons ici l'introduction de cette épître que nous allons étudier les semaines prochaines. Incha'Allah ta'ala. Qui commence par un chapitre. Et les noms de la plupart de ces chapitres sont des noms de notre fait, à moi qui ai fait cet effort de traduction de cet épître, ainsi que mon frère Kamel qui m'a assisté dans cela. La plupart de ces noms de chapitres n'ont pas été donnés par Cheikh Taqiddin al-Hilali, mais plutôt est de notre fait afin de séparer les différentes parties du livre, bien que certains de ces titres soient de son fait, le fait de l'auteur, et à ce moment-là, je le préciserai. Nous verrons ici que cette épître commence par la proclamation dans l'évangile que Jésus, Isa, alayhi salam, est un serviteur de Dieu. Ici, comme l'a dit Cheikh, rahimahullah ta'ala, dans son introduction, il dit « Le musulman ne sera jamais en manque de preuves de l'authenticité de sa religion et de la fausseté de la religion de ses ennemis. » Mais il lui manque des frères sincères qui secourent Allah et son messager. Chose qu'a fait ici Cheikh Mohammed Taqiddin al-Hilali, rahimahullah, comme tous ceux qui l'ont précédé dans cela, parmi les auteurs, les savants musulmans qui ont écrit à propos de ce sujet, comme je l'ai évoqué dans la première assise, revenez à celle-ci, où j'ai évoqué des noms de livres traitant de ce sujet. Et donc ici, c'est ce à quoi s'est attelé Cheikh Mohammed al-Hilali rahimahullah dans cet épître. Il a étudié ces quatre évangiles, ceux qui sont appelés des évangiles par les chrétiens aujourd'hui, qui bien sûr, comme vous le savez, ne sont pas l'Injil qui est descendu sur Isa alayhi salam, mais plutôt des récits rapportés de personnes ou entre parenthèses, entre guillemets, personnalités chrétiennes qui sont morts ou qui ont vécu et qui sont morts des années après le message de Isa alayhi salam, qui ne l'ont pas rencontré. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit ces évangiles, les quatre évangiles que nous évoquerons dans notre étude de cette épître, sont des gens qui n'ont pas vécu avec le Messie Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie alayhi salam. Et j'avais enregistré, après un sermon du vendredi, une parole concernant cela. Revenez à cette parole, elle se trouve sur le site Ahl al-Dhikr ainsi que sur la chaîne Telegram, concernant la réalité, la vérité à propos de l'église chrétienne et la place de Isa, de Jésus, fils de Marie, chez les musulmans. Bien sûr, les points que j'ai abordés dans cette parole, qui ne durent pas plus d'une demi-heure, je les évoquerai aussi dans notre léger commentaire de cette épître de Cheikh al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Et donc ici, lorsqu'il parle des évangiles, il parle de ces quatre évangiles qui ont été écrits par ces gens. Et en aucun cas, ici, nous parlons de l'évangile qui fut révélé à Isa, Jésus, alayhi salam. Et la démarche de Cheikh ici est de mettre en évidence que d'après même les livres qu'ils ont rendus saints, donc ils l'appellent la Sainte Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament est appelé chez les chrétiens la Bible, la Sainte Bible, the Holy Bible. Et la démarche de Cheikh est de mettre en évidence que d'après vos textes, d'après ces textes que vous sanctifiez, nous vous montrons même que ce que vous imputez à Isa est faux et n'était pas ce sur quoi étaient les premiers chrétiens. Ces premiers chrétiens qui ont écrit ces livres et qui, sans aucun doute, ont été falsifiés et pervertis par la suite, par des ajouts et des diminutions faits par des mains qui ont joué avec ces écrits de ces premiers chrétiens. Et comme je l'avais expliqué dans cette parole que je viens d'évoquer, et nous reviendrons dessus, Inch'Allah, dans les assises prochaines, le fait que l'Église chrétienne a régi par des traités les lois de la religion chrétienne connue aujourd'hui. Des traités qui furent signés, si on peut le dire, ou à propos desquels se sont accordés lors de réunions, de conciles, comme nous le verrons dans les cours prochains. Donc ici, la démarche de Cheikh Mohammed Taqi Eddine est de leur montrer aux chrétiens, de même que, et comme vous l'avez entendu dans l'introduction, de même qu'aux musulmans, qui, pour être entourés de chrétiens, afin de les appeler à l'islam, la religion de vérité, comme pour son élève, Mundir, un Irakien qui se trouvait aux États-Unis pour étudier l'ingénierie, qui se trouvait au milieu des chrétiens, comme beaucoup d'entre nous en France, qui nous trouvons au milieu de peuples chrétiens, afin que nous connaissions certaines bases de leur religion et que le musulman lambda puisse se préserver en premier lieu, puis les réfuter en second lieu, au moment où il aura bien compris cette épître, comme il l'a évoqué dans l'introduction, qui était une condition pour pouvoir discuter avec eux, le fait d'avoir bien compris cette épître, de ne pas se lancer tête baissée dans un débat avec ces gens-là, car ceci, sans aucun doute, est quelque chose qui peut être très dangereux pour la religion du musulman. Que ce soit avec des non-croyants, comme des juifs, des chrétiens et autres, ou avec des gens de l'innovation et des ambiguïtés. Le fait de s'écarter de la polémique est une des bases des gens de la sunna. Il faut bien prendre garde à cela et ne pas foncer tête baissée à chaque fois que l'une de ces personnes soulève un débat et que nous sentons le sang bouillonner en nous, nous précipiter à répondre, et bien souvent à répondre sans science. Voici ce qu'a voulu mettre en avant ici Cheikh Mohammed Taqi Eddine al-Hilali dans cette épître. Donc nous verrons dans cette épître que dans le premier chapitre, dans la première partie, et c'est une épître qui est concise, même si on appelle cela des chapitres, mais ce sont des chapitres qui durent que quelques pages, qu'on aura l'occasion de lire en peut-être plusieurs chapitres en un seul cours. Dans le premier chapitre, il parlera de la proclamation dans l'évangile que Jésus, alayhi salam, est un serviteur de Dieu. Nous trouverons cela proclamé clairement dans l'évangile. Donc il est un serviteur de Dieu, qu'il n'est pas Dieu lui-même, ni le Fils de Dieu, ni le troisième de trois. L'annonce de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'évangile. Le reste des preuves évangéliques sur le fait que Jésus alayhi salam est un serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il reviendra sur ce point-là et mettra en avant d'autres preuves encore venant appuyer le fait que Jésus n'est pas Dieu lui-même, ni le Fils de Dieu, ni le troisième de trois. Puis une conclusion exposant les preuves que l'histoire de la crucifixion est inventée. Faites bien attention, car l'histoire de la crucifixion, comme je l'ai évoqué dans cette kalima, dans cette parole que j'ai donnée à la mosquée après un sermon de vendredi, j'avais expliqué que l'histoire de la crucifixion était inventée, ceci avec des preuves, et des preuves bien sûr venant, j'avais rapporté les preuves venant du Coran et de la sunna, mais aussi des preuves historiques tirées de leurs propres livres. Et nous reviendrons sur cela Et il faut savoir que la crucifixion est une des bases sur lesquelles tiennent la religion chrétienne. Puis le fanatisme des chrétiens et leur animosité envers les musulmans, la réponse à une deuxième ambiguïté des chrétiens, puis une réponse à une autre ambiguïté encore des chrétiens, puis un exemple de fanatisme des gens de l'ignorance et de l'incroyance envers l'islam et de leur transgression à son égard, puis la nullité de ce que prétendent les chrétiens concernant la crucifixion de Jésus. Ici, Cheikh rapportera plusieurs histoires qu'il a vécues lui-même pour illustrer, en prenant de ces histoires ou en tirant de ces histoires des exemples, venant illustrer ce qu'il avance. Et donc cette épître est importante car il n'est pas permis aux musulmans lambda d'ouvrir ces livres qui sont les livres sacrés chez les juifs et les chrétiens, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et de lire dans ces livres directement. Et ce, même s'il prétend lire dans ces livres pour réfuter ces gens-là, pour connaître ce sur quoi ils sont et réfuter ces gens-là. Car le musulman lambda n'a pas les outils, n'a pas la science pour se préserver des ambiguïtés. Il ne lui sera pas autorisé de faire cela. Plutôt, ceci sera autorisé pour les savants et les étudiants en sciences qui voudront véritablement faire des réfutations construites sur une science certaine. Et nous voyons que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Lorsque, dans un hadith authentique, Omar ibn al-Khattab, et qui est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, comparé à l'un d'entre nous. Lorsque Omar vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses mains des feuilles, des livres, des gens du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, es-tu dans le doute, Ya ibn al-Khattab, dans le sens de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam, je suis certes venu à vous avec la vérité éclatante, de jour comme de nuit, et par celui qui tient mon âme dans sa main, si mon frère Moussa était présent et vivant auprès de nous, il ne lui aurait pas été autorisé si ce n'est de me suivre. Il n'aurait pu faire autrement que de me suivre. Nous voyons ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc de lire dans ses livres cette lecture qui peut être faite par certains musulmans par ignorance de ce jugement, comme je l'ai dit précédemment, afin de, comme ils le prétendent, se renseigner à propos de ces gens-là, les gens du livre, et de pouvoir les contrer, les réfuter. Et ceci, nous trouvons que certaines personnes le font parce qu'ils vivent avec ces gens, les gens du livre, comme nous en l'occurrence en France, et ils trouvent dans le fait de comprendre les ambiguïtés et les égarements sur lesquels sont les gens du livre, un bénéfice. De même que dans le fait de rechercher la manière de les contrer, ils trouvent un bénéfice. Ceci afin de les appeler à l'islam, ceci afin d'appeler leur entourage à l'islam. Il n'y a pas de doute que même si l'intention est bonne, la manière ne l'est pas, comme je viens de le démontrer plus tôt. Il sera meilleur pour eux de revenir vers des ouvrages spécialisés dans cela, comme cet ouvrage. Comme vous l'avez entendu dans son introduction, que Cheikh Mohammed Taqiddin al-Hilali a écrit cette épître pour un de ses élèves qui vivait auprès de ces gens-là, les gens du livre, les chrétiens en l'occurrence, et il lui a retiré les preuves qui lui seront nécessaires afin de comprendre ce sur quoi ils sont en premier, comme il l'a dit dans son introduction, après les avoir bien comprises, et ensuite de les réfuter. Voici l'œuvre que nous allons étudier, Inch'Allah, dans les semaines prochaines. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.